Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, ma chère Omblin. Bon réveil à tous. Nous sommes le mercredi 22 septembre et c'est l'automne.
À la faveur de l'automne, revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme mon frotteur.
La saison des vieilles mélodies, de la douce mélancolie, mais aussi la saison où l'on commence à ressortir les pulls tricotés par mamie.
Oui, je vois que vous l'avez mis sur le dos de votre siège, hein, le vôtre. Il fait frisquer ce matin, j'ai relevé un petit 8 degrés à Chaumont, en Haute-Marne. Eh bien, on va confirmer tout cela dans quelques instants avec la météo d'Anissa Haddadi.
Et ce retour du froid, c'est tout sauf une bonne nouvelle pour les quelques 28 millions de Français qui se chauffent au gaz. Il ne vous aura pas échappé que les tarifs réglementés ont bondi de 40% depuis le début de l'année, et ils pourraient encore grimper car le prix du gaz, tenez-vous bien, s'est envolé de 300% sur les marchés mondiaux depuis janvier. C'est tout simplement du jamais vu. Ça touche aussi l'électricité, plus 100%, et dans une moindre mesure les carburants à la pompe. Bref, les prix de l'énergie s'envolent et avec eux nos factures. Comment l'expliquer? Combien de temps tout cela va durer? On en parlera à 6h10 avec un grand spécialiste du secteur, l'économiste Philippe Chalmin. Et puis aujourd'hui, Omblin, on célèbre un anniversaire.
Oui, il y a 50 ans, on sortait le tout premier numéro d'Okapi en kiosque, un magazine destiné aux jeunes de 10 à 15 ans. Alors à votre avis, il coûtait combien à l'époque?
Aucune idée, je sais pas, un ou deux francs.
Ouais, 2,50 francs. Et il s'intéressait aux écureuils et aux hommes préhistoriques. Okapi aujourd'hui est un bimensuel, se vend à 5,20 €. Un numéro spécial de 76 pages sort ce mercredi. Alors est-ce que les préoccupations des adolescents sont toujours les mêmes depuis 50 ans? Il semblerait que pour certaines choses, rien n'ait vraiment changé. On sera avec François Blaise, le rédacteur en chef d'Okapi.
Et puis on terminera avec votre partition à 6h20. Omblin, on écoute quoi ce matin?
Presque 60 ans d'exploration musicale ont façonné le répertoire de cet artiste hors norme. Une rencontre va changer sa vie et ses chansons.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
Christophe, dans la partition à 6h20, sa rencontre avec Jean-Michel Jarre, l'auteur des mots bleus.
Voilà une partie du programme. Installez-vous, on commence comme promis avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bon, alors il fait froid ce matin.
Oui, il fait très froid ce matin, j'allais vous le dire. Couvrez vos enfants, couvrez-vous en partant au travail, à l'école. Alors il fait froid, on a 5 degrés seulement à Épinal, et Charleville-Mézières, 7 à Marseille, 8 degrés à Langres, 9 degrés à Rouen et Paris. À Rouen et Poitiers, pardon. 10 à Clermont-Ferrand, il fait un peu meilleur à Paris avec 12 degrés, 14 à Bordeaux et 19 à Nice. Alors pourquoi il fait froid? Parce que c'est le premier jour de l'automne, mais pas que. Parce que nous avons un ciel totalement dégagé, c'est-à-dire qu'il va faire très beau cet après-midi et demain. Alors d'habitude, les nuages, quand ils sont là, on les aime pas. Mais c'est vrai qu'il nous protège du froid. Là, le ciel est complètement dégagé. Du coup, le froid s'installe, surtout le matin. Ça sera un petit peu mieux cet après-midi. Alors attention aux grisailles, hein, du côté de la Bretagne, dans le Loiret, en Auvergne, sur le Pays Basque et puis dans le Nord-Est. Pas mal de brouillard ce matin, ça se dégage et c'est du soleil pour tout le monde cet après-midi avec 15 à 27 degrés.
En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Il va faire beau.
Mais oui.
Mais voilà.
Aujourd'hui et demain, de très belles journées. Hein.
Bon, bah tant mieux. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Place à l'info, votre premier journal de ce mercredi 22 septembre. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Emmanuel Macron est-il en train de vider les caisses de l'État à 7 mois de la présidentielle? C'est ce que pense l'opposition alors que le budget pour 2022 doit être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. S'il sonne la fin du quoi qu'il en coûte, le carnet de chèques reste grand ouvert. L'Union européenne enfin solidaire avec la France dans l'affaire des sous-marins. La crise est un signal d'alarme pour tous, juge le secrétaire d'État allemand aux affaires européennes. Et puis une journée historique hier pour la French Tech, levée de fonds sans précédent, plus d'un milliards de dollars, dont 700 millions pour une seule start-up, Sorar. Explication dans ce journal. Le journal de 5h vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. Emmanuel Macron est-il en train de vider les caisses de l'État avant la présidentielle? Présentation du budget 2022 aujourd'hui en Conseil des ministres. Il table sur une croissance de 6% cette année, 4% l'année prochaine. Le gouvernement a sonné il y a quelques jours la fin du quoi qu'il en coûte. Et pourtant, le carnet de chèques reste grand ouvert, Carole Ferry.
Effectivement, le budget de l'État va augmenter de plus de 11 milliards d'euros. Parmi les mieux servis, l'armée, avec 1,7 milliard d'euros supplémentaires. L'éducation, 1,7 milliard de plus également. Une hausse qui inclut la revalorisation du salaire des enseignants en janvier prochain. Enfin, l'intérieur va progresser de 1,5 milliard, dont un tiers à destination des mesures du Beauvau de la sécurité. Emmanuel Macron a par ailleurs promis plus d'un milliard à Marseille, un plan d'investissement pour 2030, un revenu d'engagement pour les jeunes. Beaucoup de promesses dont le financement inquiète le député LR Gilles Carrez, ancien président de la commission des finances à l'Assemblée nationale.
Ce qui va se passer, c'est que dans le budget 2022, ne seront inscrites qu'une toute petite partie de ces dépenses supplémentaires. Emmanuel Macron a sorti le carnet de chèques. Ça n'est plus un carnet de chèques sanitaire lié au Covid, c'est devenu un carnet de chèques électoral. En faisant des promesses qui ne va pas financer lui-même, mais qui devra être financé ensuite.
Des dépenses supplémentaires qui inquiètent d'autant plus qu'aucune mesure d'économie n'est prévue pour compenser.
Merci Carole Ferry. La loi contre la maltraitance animale étudiée aujourd'hui en commission des affaires économiques au Sénat, véritable enjeu pour les candidats à la présidentielle, puisque selon un sondage IFOP, les Français sont près d'un sur deux à déclarer que les propositions faites en matière de protection animale influenceront leur vote, soit 8 points de plus qu'en 2017.
L'Union européenne prend position et défend enfin la France dans la crise des sous-marins.
Oui, il aura fallu du temps aux Européens, mais ils l'ont fait en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, au moins verbalement, puisque la crise est un signal d'alarme pour tous, juge le secrétaire d'État allemand aux affaires européennes, Isabelle Horry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles, Isabelle. Est-ce qu'après avoir apporté leur soutien à la France, les Européens envisagent de prendre des mesures face à l'Australie ou encore les États-Unis ?
Oui, mais plutôt des mesures symboliques. Envers l'Australie d'abord, depuis 3 ans, Canberra négocie un accord de libre-échange avec Bruxelles, notamment pour exporter plus de produits agricoles. La prochaine session de discussion est prévue le mois prochain. Elle pourrait être reportée. De toute façon, à elle seule, la France peut bloquer un éventuel accord car il nécessite l'unanimité des États membres. Second sujet, là ce sont les Américains qui sont visés. Une rencontre importante prévue à Pittsburgh entre Américains et Européens sur les nouvelles technologies et le commerce va sûrement être décalé. Il faut marquer le coup symboliquement, c'est un peu comme un rappel d'ambassadeur, dit une source française. C'est la Commission européenne qui doit prendre la décision formelle.
Et Isabelle, on a aussi l'impression que l'Europe s'est rendue compte qu'elle était un peu seule finalement.
Oui, c'était frappant d'entendre hier un ministre allemand parler d'un signal d'alarme qui pose la question de la souveraineté de l'Europe. Du miel pour les oreilles françaises. Après Kaboul, après cet accord AUKUS, il faut qu'on avance sur la question de l'autonomie stratégique, clame aussi la Commission européenne. C'est le bon côté de la claque reçue par la France et indirectement par l'Europe. Elle dissipe une partie des illusions. Les arguments français sur la défense européenne sont pris plus au sérieux. Alors, le constat, c'est déjà ça, mais maintenant, il va falloir voir si les Européens arrive à poser des actes.
Merci Isabelle Horry. En tout cas, Nicolas Sarkozy a pris parti. Hier, il a critiqué Joe Biden en assurant que cela ne se fait pas entre amis et entre alliés.
On en vient à l'économie et la journée d'hier est à marquer d'une pierre blanche.
Oui, un mardi historique pour la French Tech. Jamais les startups françaises n'avaient levé autant d'argent en si peu de temps. 550 millions de dollars pour Miracle, le créateur de Marketplace, entend des plateformes de mise en relation entre vendeurs et acheteurs. Elle est valorisée à 3,5 milliards de dollars. Le grand gagnant, Sorar, près de 700 millions pour la start-up qui propose des jeux et objets de collection virtuels. Elle vaut aujourd'hui 4,5 milliards de dollars. Les raisons de cette levée de fonds historique avec Nicolas Julia, fondateur de Sorar.
On a un environnement qui mûrit autour de nous et on a vu des succès à grande échelle. Je pense que le deuxième point, c'est qu'il y a aussi l'ambition. On n'a plus peur en fait de vouloir créer des leaders mondiaux, de sortir de nos frontières et d'avoir cette ambition mondiale depuis le premier jour. On fait plus de 20% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis de notre côté et la France nous représente un peu plus de 10% de nos revenus. Et après, je pense qu'il y a un troisième point qui est aussi le contexte de marché avec ces banques centrales qui quand même alimentent un petit peu le système avec de l'argent qui finit par redescendre, notamment dans le capital risque.
Nicolas Julia, fondateur de Sorar, que vous avez joint hier soir. Emmanuel Duteil, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce sont des startups françaises, bonne nouvelle, mais ce sont rarement des fonds français qui investissent dans ces grosses entreprises, Emmanuel.
Vous avez raison, hein. Chez Sorar, c'est le japonais SoftBank qui mène le tour de table. Chez Miracle, c'est le fonds Silver Lake, une des stars de la Silicon Valley. Alors, il y a bien quelques Français au capital de ces entreprises. Xavier Niel, Euraseo, le footballeur Antoine Griezmann ou le philanthrope Alexandre Mars, par exemple, chez Sorar. On trouve souvent aussi la BPI dans les tours de table. Mais voilà, on manque en France de gros fonds capables d'investir d'un coup des centaines de millions d'euros. Pour ces opérations, ce sont les étrangers, surtout les Américains, qui sont à la manœuvre. Comme le marché est saturé aux États-Unis, ils viennent miser sur les pépites françaises et européennes, m'a confié un gros investisseur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des fonds, la plupart de nos pépites gardent leurs sièges sociaux en France. Et même si toutes s'inquiètent du même problème, la difficulté à recruter chez nous les profils recherchés, ça reste malgré tout chez nous encore plus simple d'embaucher qu'aux États-Unis.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service Éco d'Europe 1. Le gigantesque et controversé projet de transformation de la gare du Nord abandonné par la SNCF hier soir, justifiant cette décision par des dérives insupportables par rapport aux engagements de Citrus, filiale d'Auchan.
Réclusion criminelle à perpétuité pour Tyler Villus.
Ouais, le djihadiste français a été condamné hier en appel à la cour d'assises spéciale de Paris. Une peine plus lourde que les 30 ans prononcés en première instance. Condamnation assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour avoir participé à des crimes commis entre 2013 et 2015 en Syrie avec l'État islamique. À Marseille, nouvelle fusillade hier soir dans le 14e arrondissement. Selon la Provence, bilan, un mort, deux blessés. Les trois victimes sont âgées d'une vingtaine d'années. Le ou les auteurs ont pris la fuite.
Il continue de faire de nombreux dégâts. C'est le volcan Cumbre Vieja entrée en éruption dans les Canaries dimanche.
Ouais, 6000 personnes évacuées, 200 habitations emportées par les coulées de lave, dont celle de Karel, un Hollandais en retraite sur l'île espagnole de La Palma. Sa maison est détruite.
On est rentré lundi soir et mardi matin, on a vu que notre maison était perdue, comme plein d'autres, et la situation est vraiment proche d'une catastrophe. Il y a un petit village, disons un kilomètre et demi en dessous de nous. Ça va être perdu totalement. L'église, la salle des fêtes, l'école, le petit supermarché, la pharmacie, blablabla. Il y a plus et plus de monde qui ont été évacués. Et nous, personnellement, on a de la chance qu'on a trouvé pour quelques nuits un appartement. Eh bien, on va pas voir qu'est-ce qu'on va faire dans la future. Il y a plein de choses qui tournent dans nos têtes.
Des propos recueillis par Henri de Laguérie, correspondant pour Europe 1 en Espagne.
Un peu plus de deux semaines après le décès de Jean-Paul Belmondo, la sortie d'un livre indigne la famille de l'acteur.
Jean-Paul, mon homme de Rio, c'est le nom de l'ouvrage qui sort aujourd'hui aux éditions Flammarion, signé Carlos Sotomayor, sa dernière compagne. Et la publication du livre fait polémique. La famille Belmondo parle d'indécence, mais l'actrice brésilienne assume complètement Céline Géraud.
Une idylle au début des années 80, des retrouvailles au printemps 2020. Carlos Sotomayor a partagé la vie de Bébel à deux reprises, deux parenthèses enchantées, et elle aurait tant aimé qu'il puisse lire le livre.
J'avais commencé ce livre il y a près de 4 ans. L'été dernier, Jean-Paul a lu les premières 35 pages du livre, qu'il a trouvé très drôle. Je pense que c'est un livre génial et Jean-Paul lui-même, il avait aimé le début et je suis sûre qu'il aurait aimé le reste.
Jean-Paul, mon homme de Rio, c'est 227 pages où elle déroule les deux chapitres de leur histoire d'amour. 83, les années folles, les fêtes jusqu'au bout de la nuit avec un Bébel jaloux qui planque un magnétophone pour la surveiller. Et puis 2020, les retrouvailles à Grasse en plein confinement. La voilà tour à tour infirmière, cuisinière, amoureuse et joyeuse quand l'été arrive. Les sorties, les petits plaisirs retrouvés, un camembert pané au four à Mougins, une escale en Italie, un verre de limoncello et du Sinatra. Bébel et Carlos, c'était ça leur Dolce Vita.
Jean-Paul, mon homme de Rio de Carlos Sotomayor sort aujourd'hui chez Flammarion.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h10 sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Amiens. Et mon pari gagnant sera le 307, Hooper des Chasses. Aussi à l'aise sur les parcours corde à droite que corde à gauche, cet adepte de la course en tête va se plaire sur cet hippodrome d'Amiens qui avantage les chevaux allant de l'avant. Au mieux de sa forme, comme le prouve sa récente troisième place obtenue avec la manière à Vincennes et associée à Johan Le Bourgeois, qui n'a pas son pareil pour driver ses partenaires de façon offensive, eh bien ces deux-là s'annoncent vraiment difficiles à battre. Notez bien, pour cet après-midi à Amiens, réunion 1, dans la troisième course, le numéro 7, Hooper des Chasses.
Hooper des Chasses. Merci Thierry Léger, vous revenez dans une petite demi-heure pour les pronostics du Quintet. Très bon réveil sur Europe 1, vous restez avec nous, il est 5h11 et dans une petite minute, on va ouvrir les journaux ensemble.
Le pressing avec au menu ce matin, des loutres écolo, le retour sur scène d'un trio de légendes et un masque qui pose question. À tout de suite.
Omblin
Blandine Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h12, c'est l'heure du pressing, bien sûr. Les articles à lire ce matin dans vos quotidiens. L'équipe est au complet puisque nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Blandine, bonjour à tous.
Bonjour Martin. On jette tout d'abord un œil sur les unes de vos journaux, si vous voulez bien. Sous-marin dans les coulisses d'une trahison, titre Le Figaro, qui raconte comment pendant un an et demi, l'Australie a comploté en secret avec Londres et Washington pour miner l'accord avec la France. Aujourd'hui en France, s'intéresse pour sa part à la présentation tout à l'heure du projet de loi de finances. La délicate sortie du quoi qu'il en coûte, analyse Le Quotidien au sujet de ce budget 2022 très politique sur fond de pré-campagne présidentielle. Et puis démarchage téléphonique, le ras-le-bol, c'est le titre à la une de Sud-Ouest. La loi promulguée il y a un an qui devait réguler le secteur n'a visiblement pas changé grand-chose, écrit Le Quotidien régional. Voilà pour les unes. Ombline, on commence avec vous.
Elle n'est pas juste mignonne avec ses petites moustaches, ses yeux malicieux, ses jolies oreilles rondes, son pelage tout doux, c'est presque une comptine. On craque tous lorsque... Concernant la moustache ou les oreilles ?
Les deux.
On craque lorsqu'elle nage sur le dos.
Ça
un poisson
pas.
Qui s'agite entre ses pattes palmées.
Ah.
On va pouvoir
demander.
On discute. Oh, j'aurais tant aimé que ce soit vous. Mais c'est la loutre de mer qui n'est donc pas juste mignonne. Elle est une héroïne du changement climatique. C'est le titre de cet article à lire sur le site de Slate. Un proverbe écossais dit « La seule chose que la loutre ne sait pas faire, c'est voler », à propos de sa grande faculté d'adaptation. Voilà, elle peut vivre aussi bien en Scandinavie que dans les pays du Maghreb, de la Basse-Californie à l'Alaska. La loutre se plaît partout et c'est bien pratique parce qu'elle protège l'écosystème dans lequel elle vit. En fait, elle participe à la propagation et à la protection du varech. Alors le varech, c'est un mélange d'algues brunes, vertes et rouges qui tapissent les océans. Et ce varech, eh bien, il capte et il stocke le carbone de l'atmosphère dans les fonds marins, ce qui l'empêche d'être reconverti en CO2 et donc de participer au changement climatique. Ça, c'était la minute courte de biologie.
On a tout compris.
Comment elle fait pour protéger ce varech, la petite loutre ? Eh bien, parce qu'elle a un gros appétit. Voilà, tout simplement, la loutre se nourrit notamment d'oursins voraces qui déciment des champs entiers d'algues. Et en milieu naturel, écrit Slate, les oursins seraient responsables de la destruction de près de 10 mètres de forêt d'algues chaque mois. Cette algue qui capte le CO2, hein, comme je vous le disais. Lorsque l'oursin passe, le désert avance sous la surface des mers et des océans. Heureusement, la loutre est là pour veiller au grain. Elle se régale aussi des crabes, premier prédateur des escargots. Or, ces escargots, eh ben eux, ils nettoient les algues et ils favorisent la croissance des algues. Donc, c'est vachement important d'avoir des escargots
Donc, la loutre,
dans les fonds sous-marins. Elle mange
super
des crabes
défenseuse de
l'environnement. Et les oursins. Voilà, une sentinelle pour la planète bien sympathique avec ses moustaches toutes mignonnes. Elle est protégée depuis 1981, la loutre, figurez-vous. Voilà, c'est sur slate.fr.
Les loutes sont nos copines. Merci beaucoup, Ombline. Martin, à vous.
Avec un retour ce matin.
Ça ne rajeunit pas.
Oui, les Fugees, célèbre groupe de hip-hop américain, se reforment 14 ans après leur séparation.
Oh, c'est incroyable.
Ils ont annoncé leur retour hier pour une tournée internationale, car 2021, c'est une date importante pour eux, c'est les 25 ans de l'album The Score. Ready or not, here I come. Alors The Score, hein, c'est l'un des albums les plus marquants de l'histoire du hip-hop avec ses tubes, Killing Me Softly ou encore Ready or Not qu'on vient d'entendre. Un succès commercial aussi avec plus de 7 millions de disques vendus rien qu'aux US. Même en France, hein, il sera l'album le plus vendu de l'année 1996. Et surtout, c'est une réussite artistique, hein, classée parmi les 500 plus grands albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Alors la trajectoire des Fugees, hein, n'a pas été un long fleuve tranquille. Après la révélation au début des années 90, la consécration avec The Score, Wyclef Jean, Lauryn Hill et Prince Michel, les trois membres du groupe se sont séparés une première fois au tournant du millénaire. La première reformation en 2004 a été un échec, Wyclef Jean estimant notamment que la chanteuse, hein, Lauryn Hill avait besoin d'un suivi psychiatrique. Drôle d'ambiance.
Ils étaient amants, je crois, si je me souviens bien, une partition d'Omblin il y a quelques semaines.
Ceci explique peut-être cela.
Ça a été révélé bien plus tard. Mais,
mais depuis 2007, de l'eau a visiblement coulé sous les ponts. Les Fugees repartent donc pour une tournée exceptionnelle de 12 dates. Et la très très bonne surprise, Omblin, c'est qu'ils vont venir en France. Le 4 novembre, notez-le bien sur votre agenda, ça sera l'une des deux seules dates en Europe avec Londres, le 6. Avant cela, le groupe sillonnera les États-Unis avec 8 dates avant de finir en Afrique, au Ghana et au Kenya. Une dernière info pour tous ceux que ce concert parisien intéresse, ça sera à la U Arena de la Défense, 40 000 places. Des préventes seront disponibles dès demain sur le site Live Nation et la vente grand public, ce sera à partir de vendredi 10h. Les Fugees annoncent un concert événement le 4 décembre, c'est à lire sur le site du Figaro.
Le 4 novembre. Hein.
4 novembre.
4 novembre, pardon, excusez-moi.
4 novembre. Ouais. 4 novembre. Et malheureusement, Omblin, c'est un jeudi soir.
Ouais.
Donc,
ça, c'est pas grave. Oh, c'est pas un problème. Ça s'enchaîne, les Fugees et le petit matin. Okay. Mais surtout, elles vont être vendues. Moi, je mets une petite piècette en 3 minutes.
Sur Live Nation demain. Et puis...
Ou la URL, c'est grand, vous me direz.
On verra bien. Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article de Libération. Savez-vous ce que qu'est le profloasbestos? J'ai même du mal à le dire.
Le profloasbestos.
C'est bien, c'est un masque de protection contre l'amiante. Un engin imposant qui ressemble à un masque de plongée intégral. Il recouvre l'ensemble du visage. L'air est acheminé par un tuyau, lui-même alimenté par un moteur que l'on accroche à la ceinture. Bref, c'est du matériel de pro. Et ce n'est pas un hasard si c'est un best-seller. Ce masque commercialisé par le géant américain 3M représente plus de 70% du marché français. Autant dire qu'on le trouve sur tous les chantiers de désamiantage et ils sont nombreux. C'est même un secteur en plein essor qui concerne 35 000 salariés. Alors je rappelle, entre autres, qu'entre 2500 et 6500 personnes en France meurent chaque année de l'amiante, considéré comme cancérogène avéré. On comprend mieux pourquoi ces masques de protection ont une importance capitale pour la santé des ouvriers. Le problème, nous apprend Libération ce matin, c'est que depuis 3 ans, il y a des doutes au sujet de l'efficacité de ce masque en particulier. Son moteur aurait des baisses de régime. En clair, il n'assurerait pas un débit d'air filtré assez élevé, avec le risque à la clé de respirer des fibres d'amiante. Ce problème potentiel, la Direction Générale du Travail en est informée depuis mars 2019. Des investigations sont en cours, assurées encore la semaine dernière les services de la DGT. Comprenez, ne vous affolez pas, en l'état, ce masque reste sûr. Oui, mais pas pour tout le monde, visiblement, puisque cette même DGT a recommandé à ses agents chargés de contrôler les chantiers de suspendre leur utilisation de ce masque, en tout cas les modèles fabriqués avant septembre 2020. Principe de précaution est-il écrit en toutes lettres dans cette note interne diffusée en juin dernier et que révèle ce matin Libération. Donc si on récapitule, la DGT, l'organisme d'État chargé d'assurer la sécurité des travailleurs, estime que des mesures de précaution s'imposent pour son personnel, mais pas pour les 35 000 ouvriers qui, eux, utilisent ce masque au quotidien. Ils sont en première ligne. Je ne sais pas pour vous, mais là, j'ai envie de chanter ça.
Est-ce que ce monde est sérieux ?
Ce qui m'étonne, c'est que comment ils pouvaient s'imaginer que cette note n'allait pas être publiée, n'allait pas sortir.
C'est les chambres de l'administration française, que voulez-vous ?
C'est quand même assez incroyable. Non mais bon, les doigts dans la confiture. Merci beaucoup Julien, rideau sur le pressing et Martin, vous revenez tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Dans une quarantaine de minutes, ce sera le journal des sports sur Europe 1. Donc à tout de suite.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Et pour l'heure, il est 5h20 sur Europe 1. Les principaux titres de l'actualité de ce mercredi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Le budget pour 2022 présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, il entérine la fin du quoi qu'il en coûte. Mais l'exécutif augmente le budget. L'opposition estime qu'Emmanuel Macron vide les caisses de l'État à quelques mois de la présidentielle. Avant, le président réunit un nouveau conseil de défense sanitaire. L'exécutif se penchera sur une possible adaptation locale du pass sanitaire. Le QR code d'Emmanuel Macron qui circule sur les réseaux sociaux depuis lundi est authentique, a confirmé l'Élysée à Europe 1 hier. Des professionnels de santé pourraient être à l'origine de cette fuite. Nicolas Sarkozy prend la parole sur la crise des sous-marins à l'occasion d'une séance de dédicace pour son nouveau livre Promenade qui sort aujourd'hui. Il a critiqué l'action américaine. Cela ne se fait pas entre amis et entre alliés, estime l'ancien président.
Europe 1. Très bon réveil à tous avec Europe 1 et avec à présent les initiatives en France. On met en lumière chaque matin celles et ceux qui font bouger les lignes et nous allons, Julien, en Gironde.
Bonjour Michel Bazin.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur d'Argefo, une société spécialisée dans la gestion forestière. Et vous présentez aujourd'hui au salon Forexpo de Mimizan votre projet Air Cosmo, on dirait le nom d'un vaisseau Star Wars. Et pour cause, il s'agit d'un drone XXL, un drone agricole. Expliquez-nous.
Oui, d'abord agricole parce que nous n'avons pas d'autre velléité que de faire de l'agriculture. On a eu un projet en fait avec des amis qui avaient envie de se lancer dans cette aventure et avec des horizons différents. Et moi, quand on s'est concerté sur ce projet, j'ai tout de suite eu envie de le développer dans un but d'application forestière. Voilà, l'idée c'était de l'utiliser pour travailler et étudier et regarder de près la forêt.
Alors on va y venir, mais avant parlez-nous un peu de cet engin qui ressemble un peu à un hélicoptère. Il est très impressionnant. On est loin des drones de loisirs que l'on trouve dans le commerce, hein.
Ah, complètement. On n'est pas sur un hélicoptère, on n'est vraiment pas sur un hélicoptère dronisé, on est sur vraiment un drone. Sa spécificité, c'est que l'axe rotor est dans son axe de gravité, ce qui veut dire qu'il peut emporter du poids. C'est en fait aujourd'hui un drone qui pèse à environ 300 kg et qui pourra emporter avec lui à peu près 250 à 300 kg de charge. Il a une autonomie de 10 heures de vol, tout dépend de ce qu'il emporte. Et il peut voler à entre 4000 et 5000 mètres d'altitude à 180 km/h.
Et si j'ai bien compris, il est entièrement programmable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'une personne qui le pilote au sol.
Alors complètement, on est dans un système où en fait il est autopiloté. Donc on peut très bien lui donner des destinations par le système de waypoint. On va lui dire d'aller se rendre d'un endroit à un autre endroit et d'aller collecter de l'information en ce moment-là. Il va être totalement autonome en étant tout le temps sur surveillance humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a à distance la possibilité de reprendre les commandes, la possibilité de le suivre, la possibilité de savoir où il est. Et on peut le piloter comme ça de manière, on va dire, assez fiable, de manière, on va dire, sur 30 km où on a la main, puisque 30 km, c'est dû à la rotondité de la Terre. Donc au bout d'un moment donné, on le perdrait. Sauf si on y mettait des satellites en relais, on pourrait aller jusqu'à 100 km. Et 100 km, le piloter, le faire revenir et le faire aller n'importe où sur la planète.
J'imagine qu'il est bardé de caméras et de capteurs pour mener à bien ses missions.
C'est le but.
Lesquels, justement ?
Alors, l'idée, c'est de faire, on va dire, de la photo, pour que les choses soient comprises par tout le monde. C'est de la photo de haute définition, c'est du LIDAR, c'est du scanner aérien. En fait, l'idée, c'est de prendre des informations, de les superposer dans le temps, de prendre des informations de manière récurrente et de pouvoir dire là où la forêt va être attaquée pour des questions sanitaires ou des problèmes de climat, des choses comme ça, et de pouvoir suivre et permettre des interventions ou un suivi plus précis sur une zone qui aura été détectée comme étant attaquée par des insectes ou souffrant de sécheresse.
Ouais, l'idée, c'est d'une certaine manière circonscrire les débuts d'épidémie au plus vite.
Oui, on est dans cette démarche-là. Vous savez qu'on a des problématiques sanitaires sur l'est de la France avec du scolyte. On risque d'avoir des problématiques de nématodes sur le permaritime qui nous est annoncé comme certain en 2025, entre 2025 et 2030. Ce sont des insectes qui détruisent à une vitesse grand V la forêt. Et l'outil drone peut permettre de repérer immédiatement les arbres attaqués et d'intervenir au plus vite pour éviter la prolifération des insectes.
Vu l'autonomie de votre drone, près de 10 heures, vous nous avez dit, ça pourrait être aussi un super outil de surveillance pour les pompiers. Il pourrait détecter très rapidement les débuts d'incendie, notamment l'été.
Alors c'est aussi un objectif. Ça fait partie de cet environnement qui me convient parfaitement, c'est-à-dire la forêt. Et la surveillance de la forêt est quelque chose d'évidemment très intéressant. Vous avez aussi des possibilités d'associer avec des appareils photos qui vont capter l'infrarouge d'un pompier, qui vont permettre de le suivre lors de sa progression dans la lutte contre l'incendie et pouvoir éventuellement le prévenir d'un retournement de l'incendie ou d'arrivée de flammes potentielles sur lui.
C'est osé tout de même de se lancer dans la conception d'un drone aussi sophistiqué. Je vous pose cette question parce qu'à la base, ce n'est pas du tout votre cœur de métier.
Alors je vous rassure, c'est pas moi qui en ai dessiné les plans, c'est pas moi qui en suis le concepteur, il y a des gens beaucoup plus formés que moi. Moi je suis simplement un forestier passionné et aussi un entrepreneur qui avait envie de créer quelque chose de sympathique et nouveau. Et j'ai trouvé avec sept copains, on s'est retrouvés dans ce projet un peu fou et on s'est dit pourquoi pas.
Eh bien, on vous souhaite qu'il marche ce projet. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Michel Bazin, de nous avoir dévoilé
Merci.
En avant-première votre drone, le Air Cosmo de la société Argefo, et qui est donc visible aujourd'hui et demain au Salon Fort Expo à Mimizan. C'est dans les Landes. Très bonne journée à
c'est
vous.
C'est dans les Landes. Merci. Au revoir.
Bonjour, bon matin sur Europe 1. C'est le dernier single de la chanteuse Oshi que vous retrouvez sur la réédition de son deuxième album Étoile Flippante. Voici Je te pardonne.
Depuis ses lèvres contre les tiennes, j'ai comme un poison dans les veines, y'a mon âme coincée sous les verres, et dans ma bouche un goût amer. Je rêve seule avec mes acouphènes, t'as mis mon cœur en quarantaine, mon amour tu m'as mise à terre, aveugle et sourde et sans repère. Te pardonne pour mon cœur fracassé, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait, je te pardonne d'avoir tout niqué, je te pardonne, je voudrais oublier, je me sens conne. J'aurais pas pensé, j'abandonne. J'mets tout de côté, tu m'étonnes. sent si seul. Mes rêves s'effondrent, il tient la gueule. Notre lit devient comme un cercueil. Mes pleurs se fondent avec la table. La nuit est longue, je me sens minable. Mes rêves s'effondrent et je pète un câble. Dans notre chambre, je vois même le diable. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier. Je me sens conne, j'aurais pas pensé. J'abandonne, je mets tout de côté. Tu m'étonnes, que l'amour fait crever. Je te pardonne, je te pardonne. J'en ai vu assez.
Oshi sur Europe 1 avec Je te pardonne. Oshi qui sera dimanche en concert lors du festival de Talence en Gironde avec également Véronique Sanson et Suzanne.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon réveil avec Europe 1. Nous sommes le mercredi 22 septembre, premier jour de l'automne et un anniversaire aujourd'hui, Omblin.
Et oui, 50 ans, ça se fête, surtout pour un magazine jeunesse. Le premier numéro d'Okapi est paru au début de l'automne 1971. Depuis sa création, il continue de s'adresser aux adolescents âgés entre 10 et 15 ans. Rendez-vous en kiosque aujourd'hui pour découvrir ce numéro spécial anniversaire avec des objets qui ont changé notre quotidien. Le TGV, la ceinture de sécurité, l'iPhone, des héros aussi, Nelson Mandela, Greta Thunberg, Gandhi. Le monde a changé, est-ce que les adolescents et leurs préoccupations premières aussi? On en parlera avec le rédacteur en chef d'Okapi.
Et puis juste après, on sera avec notre spécialiste cinéma, Laurie Choleva, emballé par deux films qui sortent en salle aujourd'hui, Stillwater et Tout s'est bien passé de François Ozon. Est-ce que tout va bien se passer aujourd'hui côté météo, Anissa Haddadi? En tout cas, cet automne 2021 commence sous le soleil.
Oui, ça fait du bien. On aime annoncer de bonnes nouvelles comme ça. Alors, on dit merci à qui? On dit merci à l'anticyclone des Açores.
Oh, j'allais vous remercier, vous, moi.
Non, moi,
j'y suis pour rien. Côté météo, c'est l'anticyclone des Açores qui s'étale sur une grande partie de la France aujourd'hui, qui nous apporte vraiment du beau temps. Alors, attention ce matin quand même, hein, au brouillard sur le Pays Basque, les Pyrénées, l'Occitanie, le Limousin, l'Auvergne, la Bretagne, la Normandie, le Grand Est. Vous l'avez compris, sur une grande partie de la France, on a des nuages bas. Ils sont nombreux, ils peuvent gêner la visibilité. Cet après-midi, adieu les nuages bas et bonjour le soleil qui s'impose. Il va faire beau partout. Un soleil radieux, légèrement voilé au nord de la Loire. Hein. Bretagne, Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France. Voilà, là, on aura quelques passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Dans le sud, toujours le Mistral qui souffle avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Malgré ce beau soleil, on a quand même un vent d'est qui rafraîchit l'atmosphère. Alors, ce matin, 5h, 4 degrés à Épinal, 5 à Charleville-Mézières, 9 à Rennes, 11 à Aubière. C'est à côté de Clermont-Ferrand, nous dit Étienne sur Twitter, hashtag Europe 1. Cet après-midi, ça remonte un peu avec 15 à 27 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Votre journal, il est 5h30.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il monte, le prix du carburant s'envole, poussé par la hausse des cours du pétrole. Dans certaines stations, le sans-plomb 95 frôle, voire dépasse les 2 euros. Après Jean Castex, c'est au tour d'Emmanuel Macron de voir son QR code dévoilé sur les réseaux sociaux. Une fuite qui inquiète l'Elysée et pose la question de la sécurité des données. Les élections législatives en Allemagne, les sociodémocrates d'Olaf Scholz toujours en tête dans les sondages. Une campagne qui voit l'extrême droite se radicaliser et perdre des voix. Et puis la 7e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Metz sans Lionel Messi blessé, mais avec Kylian Mbappé, l'attaquant français qui a du mal à cohabiter avec la star argentine. Le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous l'avez sans doute constaté en passant devant une station-service ou en faisant le plein, le prix du carburant s'envole, 1,60€ voire 1,80€ le litre de sans-plomb 95. Et dans certaines régions, il a déjà crevé le plafond des 2€ mode décan.
Eh bien, c'est déjà le cas hein, dans certaines stations-service, comme à l'Île-Dieu par exemple, où le sans-plomb 95 s'affiche à plus de 2€ le litre. Pour certains acteurs de la grande distribution, le litre de carburant à 2€ pourrait se généraliser dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce qu'affirme le PDG du groupe Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Mais pour Francis Perrin, spécialiste de l'énergie à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, passer la barre des 2€ n'est pas une évidence.
Je ne pense pas que ce soit une fatalité. Pour aller à 2€, cela veut dire qu'il faut encore 40 centimes de hausse pour le sans-plomb 95 et 55 centimes pour le gazole. Il ne me paraît pas possible de dire aujourd'hui que ce sera forcément le cas, mais on peut très bien aussi avoir un scénario dans lequel les prix du pétrole se stabiliseraient sans forcément approcher ce seuil un petit peu symbolique de 2€ par litre.
En tout cas, à 7 mois de l'élection présidentielle, l'exécutif craint qu'un carburant affiché à 2 euros ne remette le feu aux poudres, car c'est bien la hausse du prix de l'essence qui était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes en 2018.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Le gouvernement présentera tout à l'heure son projet de budget pour 2022, le dernier du quinquennat. Il anticipe une croissance du PIB de 4,8% l'an prochain et une hausse des dépenses de plus de 11 milliards d'euros.
La crise sanitaire, l'épidémie continue de reculer.
Et la pression sur les hôpitaux se fait chaque jour un peu moins forte. Moins de 8000 malades sont actuellement hospitalisés dans une unité de soins intensifs. Baisse également du taux d'incidence avec moins de 8000 cas positifs par jour. En Charente-Maritime, le port du masque n'est plus obligatoire depuis ce matin sur décision de la préfecture.
L'exécutif qui réunit un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin.
Il observera notamment la courbe des contaminations et prendra peut-être la décision de lever le pass sanitaire dans certains départements les moins touchés par l'épidémie. Mais il faudra être prêt à le réinstaurer à la moindre alerte, prévient le professeur et membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet.
Un pass sanitaire qui comporte de sacrés trous. On vous le révélait dès hier, le QR code d'Emmanuel Macron s'est retrouvé dans la nature.
Sur les réseaux sociaux, plus précisément, après Jean Castex, c'est donc le plus haut sommet de l'État qui est victime de cette fuite. Emmanuel Macron va donc devoir changer de passe, Jacques Serret.
Oui, Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix. Son QR code dévoilé, il doit s'en procurer un nouveau. Et pour cela, l'Élysée indique que la démarche est la même. Pour chaque Français qui constate une utilisation frauduleuse de son pass sanitaire, il suffit de se rendre sur le site amélie.fr pour générer un nouveau QR code. Mais jusqu'à quand pourra-t-il utiliser ce nouveau code barre? Le chef de l'État n'est pas à l'abri d'une nouvelle fuite. C'est bien là la faille, car depuis le mois de septembre, les professionnels de santé peuvent avoir accès aux données médicales de tous les Français vaccinés via un système informatique centralisé. Rien n'empêche pour le moment des soignants de consulter le dossier vaccinal du président, si ce n'est la persuasion. Pharmaciens, médecins, infirmiers, ils étaient une trentaine au début du mois à l'avoir fait. L'assurance maladie leur avait adressé une mise en garde. Hier soir, c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins compétents sur les questions de déontologie qui a été saisi par cette même assurance maladie. En attendant d'éventuelles sanctions, l'Élysée fait savoir que des dispositions particulières vont être mises en place pour rendre inactifs ces QR codes dévoilés au grand public.
Jacques Serret.
On en vient à la crise des sous-marins et Nicolas Sarkozy qui soutient la réaction française.
Cela ne se fait pas entre amis et alliés, c'est un calcul de très courte vue. L'ancien chef de l'État, très critique vis-à-vis du comportement des Américains, accusé d'avoir torpillé la vente de sous-marins à l'Australie. Les Européens, de leur côté, continuent d'avancer en ordre dispersé. Réunis à Bruxelles, ils ont réaffirmé leur solidarité avec Paris, mais certains pays comme l'Irlande ou la Suède entendent bien ménager le lien avec les États-Unis. Le président Macron, qui s'entretiendra par ailleurs par téléphone avec Joe Biden avant la fin de la semaine, c'est ce que fait savoir un conseiller de l'Élysée.
Les élections législatives en Allemagne, les sociaux-démocrates continuent leur course en tête dans les sondages.
À 4 jours du scrutin, le candidat du SPD, Olaf Scholz, est toujours donné vainqueur, même si ses adversaires de la CDU l'accusent de vouloir faire alliance avec la gauche radicale. Une campagne qui fait déjà un perdant, l'extrême droite obligée de se radicaliser pour exister. Hélène Kohl.
Dans la liste des préoccupations des Allemands pour cette campagne, l'immigration arrive en 7e position. La moitié des réfugiés de 2015 travaillent en CDI, 98% des enfants sont scolarisés et chaque week-end, comme ce jeune Syrien, ils arrivent par quarantiers de toute l'Allemagne pour contribuer à la reconstruction des zones inondées mi-juillet.
L'Allemagne nous a tant donné. Nous sommes intégrés maintenant. Nous voulons juste aider.
Privé de ce thème, le parti AfD a choisi la radicalisation pour se faire entendre. Il a endossé le discours des complotistes pendant la pandémie, contre le vaccin, contre les gestes barrières. Il assume aussi son rapprochement avec les néo-nazis dont il reprend la rhétorique, appelant à débarrasser l'Allemagne de ses parasites ou de ses traîtres comme Merkel, à les traquer, à les chasser.
Nous allons les traquer et nous allons retrouver notre peuple.
À l'Est, ce discours fait mouche dans toutes les classes d'âge, mais ce sont des régions dépeuplées qui n'ont pas beaucoup de poids au niveau national. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Aux Canaries, cela fait maintenant 4 jours que le Cumbrevieira est entré en éruption sur l'île de La Palma. La lave progresse et a déjà détruit des centaines de maisons. 6000 personnes ont dû être évacuées. En Australie, un séisme de magnitude 5,9 a fait trembler Melbourne cette nuit et semé la panique dans la deuxième ville du pays. Pas de victimes et peu de dégâts selon les premiers bilans.
On termine avec le foot, la 7e journée de Ligue 1 et les yeux seront une fois de plus braqués sur le PSG.
Les Parisiens se déplacent à Metz ce soir sans Lionel Messi, touché au genou. Son absence devrait permettre à Kylian Mbappé de sortir de son isolement depuis son arrivée à Paris. La star argentine fait beaucoup d'ombre à l'attaquant français Cyril de la Morinerie.
Oui, dimanche dernier, le meilleur buteur du club semblait isolé, presque boudé par ses deux autres partenaires en attaque. Messi et Neymar se connaissent bien, ils ont joué ensemble à Barcelone, la connexion est naturelle. Avec Mbappé, c'est plus compliqué. La preuve en chiffres, le Français de 22 ans n'a touché que 38 ballons durant cette rencontre. Et lorsque Lionel Messi est sorti du terrain, Kylian Mbappé s'est aussitôt libéré avec un débordement côté gauche et une passe décisive. L'entraîneur parisien l'a bien remarqué, mais Mauricio Pochettino demande de la patience.
Nous avons besoin de temps pour créer des automatismes, que ce soit en match ou à l'entraînement. Il y a des affinités qui existent déjà. Kylian va se joindre naturellement à ses complicités. Je suis très content de ce qu'il a fait sur le terrain contre Lyon.
Ce soir, Kylian Mbappé aura sans doute plus de liberté en l'absence de Messi, confirme notre consultant Jimmy Algerino.
Donc ça permettra à Mbappé d'être plus en vue, de montrer encore une fois que c'est lui le... l'homme providentiel de l'attaque parisienne et le meilleur joueur de l'équipe.
Le crack de Bondy espère faire gonfler ses statistiques, lui qui a déjà marqué 136 buts avec le PSG.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1, Metz-PSG, c'est ce soir à 21h. Notez que cette 7e journée est une journée complète.
Oui, donc tous les clubs vont jouer, notamment le champion en titre Lille à 19h face à Reims. C'était le journal de Christophe Lamar, merci Christophe. On retrouve maintenant Thierry Léger pour les courses et ses pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome d'Amiens que se disputera ce quintet, une course européenne dont le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Et sur ce parcours de vitesse, il faut privilégier les chevaux s'élançant en première ligne avec le numéro 4 Frenchman, le meilleur en classe pure et qui, bien luné, devrait pouvoir l'emporter. 5 Aimant Courblequin, déjà lauréat sur ce tracé et sachant finir ses courses. 3 Easton of My Life, qui lui aussi a des références solides sur cette piste. Et 2 Flyakaluma, à nouveau proche de son meilleur niveau, ce qui doit suffire ici pour disputer les premières places. Enfin les numéros 12 Gustafsson, 9 Vapien Sogar, 10 Officer Stephen et 13 Follet Buissonnet compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 5, 3, 2, 12, 9, 10 et 13.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger et à demain. Il est 5h39. Bonjour, bienvenue. Si vous vous levez juste, vous restez. On va souffler sur des bougies. 50 pour être précise, le magazine Jeunesse Okapi à un demi-siècle. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, il est 5h40 et ce matin on fête un anniversaire, les 50 ans du magazine Okapi qui occupe toujours une place de choix dans la presse jeunesse, destinée aux 10-15 ans. Depuis le tout premier numéro en 1971, le succès ne se dément pas génération après génération. Alors quel est le secret d'une telle longévité auprès des ados? Et bien pour répondre à cette question, Omblin, nous sommes avec François Blaise, le rédacteur en chef d'Okapi.
Bonjour François Blaise.
Bonjour.
J'aimerais vous demander d'abord à quoi ressemble ce numéro anniversaire.
Alors ce numéro anniversaire des 50 ans d'Okapi, c'est un numéro enrichi, c'est un numéro avec plus de pages, c'est un numéro qui est aussi très très particulier parce qu'il est sorti complètement de ce qu'on appelle le chemin de fer habituel du journal, c'est-à-dire qu'on a changé toutes les rubriques du journal pour vraiment faire un numéro qui soit un événement pour nos abonnés et pour nos acheteurs en kiosque. On l'a réorganisé complètement avec des signalétiques complètement différentes pour redire un peu à nos lecteurs quels sont tous les bénéfices qu'ils peuvent tirer de la lecture du journal, réaffirmer un peu qui on est, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait là depuis 50 ans. On sert à faire grandir, on sert à faire aimer la vie, on sert à s'informer, on sert à mieux comprendre ce qui se passe dans sa vie d'ado, on sert à se poser des questions, etc. Donc on revisite un petit peu toutes les fonctions du journal à travers ces 50 dernières années.
Oui, pensez-vous que vos lecteurs ont beaucoup changé en 50 ans? L'enfant est-il le même en 71, en 2021?
Il y a des choses qui changent très très vite et tout le temps, et d'autres qui sont totalement immuables. Très clairement, le lecteur de Capi, il a entre 11 et 14 ans très précisément, avec ce qu'on appelle un cœur de cible à 13 ans. Ben, cette période-là de la vie, il y a un phénomène qui s'appelle la puberté. Et cette puberté, c'était déjà là, j'imagine, au temps des Cro-Magnon. Donc, elle est toujours là aujourd'hui. Les questions qui se posent, qui traversent la tête, c'est toujours les mêmes. nous remonte par centaines de milliers sur ces 50 dernières années. C'est à peu près ce qu'on a mesuré comme quantité de courriers arrivés au journal, avec toujours ces mêmes questions. Pourquoi j'ai mon corps qui change? Pourquoi j'ai ces idées-là qui m'arrivent dans la tête? Pourquoi est-ce que je commence à regarder les garçons ou les filles d'un œil différent? Et puis, pourquoi est-ce que le monde n'est pas aussi beau qu'il était lorsque j'étais un enfant? Donc ça ne change pas. En revanche, il y a parfois aujourd'hui des questions qui se posent un petit peu plus jeunes. Et puis, il y a un regard sur la vie qui peut changer, notamment... On a réalisé un sondage exclusif pour ce sujet et qui permet de redire des choses qui étonnent toujours un petit peu les adultes. C'est que ces enfants, grands-enfants, jeunes ados qui sont les lecteurs de Capi, eh bien, ils croquent la vie à pleines dents, ils en veulent toujours plus, ils sont d'un optimisme indécrottable, ils se sentent bien en famille, ils se sentent bien avec leurs amis. Et nous, on adore rappeler un petit peu ces réalités-là. Ils semblent complètement déconnectés de l'actualité, mais pourtant, c'est bien comme ça qu'ils sont. Alors après, la façon dont ils s'habillent, évidemment, ce qu'ils regardent à la télévision, l'univers culturel dans lequel ils baignent, est clairement pas les mêmes. Il y a 10 ans, ils n'avaient pas de smartphone. Aujourd'hui, ils en ont quasiment tout simple.
Comment la presse jeunesse arrive-t-elle à rester attractive dans un monde où les adolescents, vous l'avez évoqué, hein, ont le bras prolongé par un smartphone et à l'heure des réseaux sociaux comme TikTok? Comment arriver à rester présent dans leur quotidien?
Bah, je vous avoue que c'est tout l'enjeu et toute la fierté aussi de notre travail et tout le temps qu'on y passe toutes nos journées, c'est justement de renouveler en permanence cette attractivité. Il faut être original, créatif, étonnant. Et on sait qu'on réussit notre travail quand nos lecteurs nous disent « on en veut encore ». C'est super ce que vous nous mettez sous les yeux, mais encore. Pourquoi? Parce que c'est un âge en fait où la curiosité est clairement pas un défaut, où l'appétit de découverte est fabuleux. Il suffit de renouveler ce mode d'accès au savoir, à la connaissance, jouer avec cette connaissance, ce mode d'accès. Je vais vous prendre un exemple parmi tant d'autres. On en a des centaines, je pourrais en citer des centaines, mais parler de Léonard de Vinci, ça ressemble à un sujet d'école. Bah, si on fait le Da Vinci blog, et comment est-ce que De Vinci aurait écrit son blog, tout d'un coup, c'est plus du tout la même chose. Si je vous transforme la famille Bonaparte en famille Kardashian, ça devient beaucoup plus rigolo à lire. Et si on parle du futur et de la technologie en faisant une projection dans le très, très, très long terme, tout d'un coup, ça devient extrêmement séduisant. Donc voilà, tout ça, ce sont des défis qu'on se pose. On passe beaucoup de temps autour de table à se réunir, à discuter de nos sujets. Autant on est des journalistes, on fait un journal, c'est un vrai magazine d'information, et autant tout ce qu'on publie est sérieux, autant la façon dont on le raconte n'est pas forcément sérieuse.
Merci beaucoup François Blaise, vous êtes le rédacteur en chef d'Okapi, bon anniversaire. Ce numéro des 50 ans sort aujourd'hui. Hein.
Tout à fait. C'est moi.
Merci.
Bon, on lâche Okapi un instant, si vous le voulez bien, et on file au cinéma pour les sorties du jour.
Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Alors à l'affiche cette semaine, Laurie, un duo inattendu.
Inattendu et inédit, c'est notre actrice française révélée par la série 10% Camille Cotin et Matt Damon. Alors les deux acteurs se partagent l'affiche de Stillwater, l'histoire de Bill Baker, un foreur de pétrole américain projeté à Marseille pour aider sa fille emprisonnée pour un crime qu'elle n'a pas commis.
Alison était venue ici pour ses études et elle a rencontré cette fille, Lina. Un soir, elle a retrouvé Lina morte et elle a appelé la police. Le seul truc qui les intéressait, c'est qu'Alison couchait avec une arabe.
Je l'aimais.
Oui, je sais.
Tout le monde pense que je l'ai tué.
Je veux sortir ma gamine de tôle. Le reste, j'en ai rien à foutre.
Vous parlez vraiment comme un Américain, là. Hein.
Tant mieux, j'en suis un.
Oui, et vous êtes aussi un étranger ici.
Alors, gage de qualité derrière la caméra, c'est Tom McCarthy qui avait eu l'Oscar du meilleur réalisateur pour Spotlight. Et surtout, la force du film, c'est vraiment ce duo de cinéma inédit quand même, qui fonctionne à merveille. Matt Damon parfait dans le rôle de l'homme ordinaire, l'Américain moyen, taiseux, dépassé par ce qui lui arrive, qui a commis des erreurs dans le passé et qui compte bien se racheter auprès de sa fille. Et puis Camille Cotin, lumineuse en mère célibataire, qui fait le lien entre cet homme désespéré et la ville de Marseille, mais qui va aussi, rassurez-vous, se rapprocher de lui, sinon c'est pas drôle du tout. La suite, c'est au cinéma que ça se passe.
Autre sortie, Laurie, le nouveau film de François Ozon, Tout s'est bien passé.
Oui, présenté en juillet au Festival de Cannes, tout s'est bien passé, arrive enfin au cinéma avec au casting André Dussolier, Sophie Marceau ou encore Géraldine Pellas. Alors André Dussolier, il incarne le père de la romancière Emmanuelle Bernheim qui, suite à un AVC, se trouve diminué et demande à sa fille de l'aider à mourir. Alors un sujet grave, c'est vrai, qui pourrait être plombant, mais pourtant le film est plein d'humour grâce à cet homme pas très sympa, faut le dire, sans filtre, râleur, beaucoup trop franc, mais qui rend les situations les plus tragiques très très drôles.
C'est un mauvais père, mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami.
Alors aide-le. Comme une amie.
En France, c'est pas possible.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas.
Très bien. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars ?
C'est la semaine de mon anniversaire.
Oh.
Ce rire. Sophie Marceau campe l'un de ses plus beaux rôles, faut le dire. Et c'est vrai que François Ozon sait définitivement filmer mieux que personne la vie et les rapports humains. André Dussolier est à peine reconnaissable. Il est vraiment bluffant. Et écoutez-le nous parler de cet homme si singulier.
Elle le dit elle-même. Elle dit j'ai souffert de lui quand il était père, mais j'aurais bien voulu l'avoir comme ami parce que c'est une personnalité forte. Ce qui fait que peut-être on est un peu fasciné. On aime bien les gens qui sont vrais, qui sont entiers et qui vous disent, y compris à leurs enfants, ce qu'ils pensent, quoi. Mais bon, à chaque fois, elles espèrent, les filles, que le père va renoncer. Et il y a un vrai attachement à cet homme qui est leur père, mais aussi qui est un être assez singulier.
Voilà, tout s'est bien passé. Le dernier film donc, de François Ozon en salle aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurie Choleva. On vous retrouve samedi sur Europe 1 à partir de 14h pour votre émission Clap.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous. Il est 5h49 et c'est le journal permanent, l'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince.
L'exécutif confirme la sortie du quoi qu'il en coûte, même si le carnet de chèques reste grand ouvert. Présentation du budget 2022 aujourd'hui en Conseil des ministres. Le dernier du quinquennat Macron. Il vide les caisses de l'État à 7 mois de la présidentielle, dénonce l'opposition. Conseil de défense sanitaire consacré à l'épidémie de coronavirus. Ce matin, le gouvernement va se pencher sur l'éventuelle adaptation locale du pass sanitaire. La crise est un signal d'alarme pour tous, juge le secrétaire d'État allemand aux affaires européennes. L'Europe a enfin montré sa solidarité avec la France hier dans l'affaire des sous-marins. Une nouvelle fusillade hier soir à Marseille, aux Arnavaux, dans le 14e arrondissement. Bilan, un mort, deux blessés. Les trois victimes sont âgées d'une vingtaine d'années. Le ou les agresseurs ont pris la fuite.
Europe Matin.
L'actualité s'écrit aussi au plus près de chez vous, dans vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit. Et ce matin, Julien, eh bien, nous sommes en Dordogne.
Bonjour Ludovic Ibart.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes journaliste à la Dordogne Libre et vous publiez ce matin un article sur la grande inquiétude du préfet de votre département, la Dordogne, où le nombre d'accidents de la route est en forte hausse depuis le début de l'année.
Tout à fait, oui, le préfet l'a annoncé hier lors d'une conférence de presse de rentrée. Depuis ces 7 premiers mois, on en est déjà à 154 accidents sur le département qui ont fait 25 morts et 207 blessés. Donc les chiffres sont en totale explosion, dont 60 accidents de deux roues motorisées ayant fait 5 morts et 39 blessés.
25 personnes ayant trouvé la mort sur les routes de Dordogne depuis le début de l'année, c'est je crois 7 de plus que toute l'année dernière.
C'est 12 de plus que l'année dernière.
Ah oui. C'est
considérable. Même si l'année dernière est une année un peu spéciale parce qu'il y avait aussi les confinements, mais en tout cas, oui, effectivement, il faut remonter à 2018 pour trouver des chiffres aussi inquiétants. Donc c'est pour ça que le préfet a décidé de taper du poing sur la table et de renforcer les contrôles sur toutes les routes, qu'elles soient rurales ou urbaines du département.
Contrôles renforcés qui ont d'ailleurs déjà débuté ces derniers jours. Hein.
Qui ont déjà eu lieu, oui, déjà vendredi dernier, et qui vont se poursuivre ces prochaines semaines jusqu'aux vacances de Toussaint.
Alors vous l'avez dit, l'année passée a été une année très particulière avec les confinements. Le nombre d'accidents a fortement baissé partout en France. Pour autant, oui. Est-ce que la Dordogne est un cas particulier ? Est-ce qu'il y a un réel relâchement ?
Oui, le préfet l'a souligné d'ailleurs hier au niveau d'un manque tout simple des règles de sécurité routière. Il a surtout axé sur les excès de vitesse qui se développent un peu partout sur le département, qui sont la cause de ces accidents. Hein. Donc il appelle la population à un peu plus de contrôle, à respecter les bases mêmes du code de la route, c'est-à-dire le stop, regarder dans son rétroviseur, respecter la vitesse et surtout les contrôles routiers, parce qu'il était témoin lui-même d'un cas d'une personne qui n'a pas voulu se soumettre à un contrôle routier et qui a fait un délit de fuite sous ses yeux vendredi dernier.
Alors les contrôles, ce n'est pas la seule réponse qui a été mise en place. J'ai lu la semaine dernière dans vos pages un reportage dans un lycée où les élèves ont joué à un escape game sur la sécurité routière.
Tout à fait. C'est au lycée La Pérouse, lycée agricole de Coulonnier-Chamier, dans la banlieue de Périgueux, où effectivement cet escape game a été mis en place pour un peu sensibiliser les jeunes à la sécurité routière, parce que les jeunes sont les premières victimes de ces accidents. Donc c'est un moyen aussi de les sensibiliser sur ce domaine. Mais pas que les jeunes, hein, aussi les motards aussi, qui sont aussi dans, qui auront bientôt des séances un petit peu entre guillemets de rattrapage.
Merci beaucoup Ludovic Ibart d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir fait découvrir donc l'un des articles à lire aujourd'hui dans la Dordogne Libre. Très bonne
tout
journée.
À fait. Merci, à bonne journée. À bientôt, au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h57, bon réveil à vous tous. Couvrez-vous avant de sortir, il fait frisquet ce matin. C'est ce que va nous dire Anissa Haddadi dans un instant.
Et cette baisse des températures, normale en cette saison automnale, elle inquiète tous ceux qui se chauffent, notamment au gaz. Son prix sur les marchés a explosé de 300% depuis le début de l'année, c'est du jamais vu. Alors heureusement, cette hausse n'a pas encore été totalement répercutée sur les factures. Mais jusqu'à quand? Comment expliquer cette flambée des prix de l'énergie qui touche aussi l'électricité et le pétrole? Autant de questions et de réponses que va nous donner dans une dizaine de minutes l'économiste Philippe Chalmin. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Début des années 70, le chanteur Christophe fait une rencontre déterminante.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre.
Une rencontre avec à l'époque non pas un musicien mais un auteur, Jean-Michel Jarre, la naissance d'une amitié et d'une précieuse collaboration dans la partition à 6h20.
Et comme promis, on fait un point sur la météo du jour avec vous, Anissa Haddadi, et attention au brouillard ce matin.
Oui, alors vous êtes déjà nombreux, j'imagine, à prendre la route là, à 6h, donc il va falloir être très prudent parce qu'on a beaucoup de nuages bas, de brume matinale entre le sud-ouest et le nord-est. Alors ça concerne le Pays Basque, les Pyrénées, jusqu'aux Pyrénées orientales, le Limousin, l'Auvergne, le long des côtes de la Manche aussi, entre la Bretagne et les Hauts-de-France, là, tout le long des côtes, on a des nuages, sur la région Rhône-Alpes, de Lyon jusque Avignon et puis dans les Alpes du Nord, là on a pas mal de brouillard sur les vallées. Alors prudence, mais rassurez-vous, dans les prochaines heures, ces nuages bas vont se dissiper et cet après-midi, c'est le soleil qui brille partout sans aucune exception. On a vraiment du très beau temps sur l'ensemble de la France, un léger voile nuageux au nord de la Loire, mais rien de très inquiétant. Et puis du Mistral qui souffle toujours dans la vallée du Rhône. Alors Omblin, vous le disiez, il fait froid ce matin, 6 degrés à 3, 7 à Strasbourg, 9 à Lons-le-Saunier, Orléans et à Caen, 12 degrés à Paris, 13 à Agen, 14 degrés à Montpellier et déjà 19 à Nice. Il va falloir se couvrir, mais cet après-midi, ça redevient sympa. Donc vraiment juste une petite laine qu'on pourra enlever dans l'après-midi parce qu'on aura 19 degrés à Saint-Brieuc, 22 à Paris et Aurillac, 23 à Lyon, 25 à Bordeaux et 28 la maximale pour Nîmes.
Donc, merci beaucoup. Oui.
Un premier jour d'automne sous le soleil.
Bah oui, mais c'est très bien.
C'est très bon signe pour la suite.
Et c'est pour ça qu'on vous remercie, Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous. C'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
C'est la gare la plus fréquentée d'Europe, la gare du Nord à Paris. Sa surface devait même tripler d'ici 2024. Et bien finalement, la SNCF jette l'éponge. Explication dès le début de ce journal. Les sommes donnent le vertige. En une journée, deux startups françaises récoltent près d'1 milliard d'euros. Une levée de fonds historique pour la French Tech. Et puis aux îles Canaries, la lave du volcan de la Palma s'approche dangereusement de la mer. Une arrivée qui pourrait générer des gaz très toxiques. Plus de 6000 personnes évacuées. Témoignage dans ce journal. Et le journal de 6h vous est présenté par Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Cela devait être l'une des vitrines de la France pour les JO 2024. La rénovation de la gare du Nord n'aura finalement pas lieu. Un chantier qui devait tripler la surface du bâtiment. Mais voilà, avec les retards annoncés, le surcoût faramineux, la SNCF abandonne. Dans un communiqué de presse lapidaire publié hier soir, l'entreprise a annoncé la rupture du contrat avec la filiale immobilière du groupe Auchan en charge du projet. Aurélien Fleureau.
C'est la gare la plus fréquentée d'Europe, 700 000 voyageurs par jour, 900 000 en 2030. Et dès 2024, la transformation prévue devait en faire une gare avec toit terrasse végétalisée d'1 hectare, parking vélo de 2000 places, 19 000 m2 de surface commerciale. Le projet était ambitieux, peut-être un peu trop. Il avait suscité de nombreuses critiques de la part d'élus d'Île-de-France, y compris de la mairie de Paris, qu'il avait pourtant soutenu au départ. Le couperet est tombé tard hier soir, dérives insupportables a tranché à la SNCF. Le contrat est rompu. En cause des retards, les travaux auraient duré jusqu'en 2026. Inimaginable d'accueillir les Jeux Olympiques dans une gare en chantier, sans compter sur les sévères perturbations sur le trafic et pour les riverains, a précisé la compagnie. En cause également un surcoût gigantesque de 600 millions d'euros. Le montant global aurait grimpé jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Dans l'immédiat, c'est la compagnie elle-même qui va prendre en charge, je cite, une adaptation rapide de la gare du Nord aux enjeux des deux événements sportifs de 2023 et 2024, soit le mondial de rugby et donc les JO.
Les explications d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Les start-up françaises changent de dimension avec cette journée doublement historique hier. Près d'un milliard d'euros de levée de fonds partagés entre deux champions.
Sorare, une entreprise de cartes virtuelles de football avec Antoine Griezmann parmi ses actionnaires et Miracle, créateur de plateformes de vente en ligne. Emmanuel Dutheil, vous nous avez rejoint, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Comment expliquer de telles levées de fonds ?
Eh bien, c'est simple, hein, c'est l'euphorie sur le marché des startups. On n'a jamais connu cela, explique un vétéran de la French Tech. 2021 sera tout simplement une année record pour les levées de fonds notamment. Et pour Nicolas Julia, le fondateur de Sorare, ça s'explique surtout par un changement d'état d'esprit.
On a un environnement qui mûrit autour de nous et on a vu des succès à grande échelle. Je pense que le deuxième point, c'est qu'il y a aussi l'ambition. On n'a plus peur, en fait, de vouloir créer des leaders mondiaux, de sortir de nos frontières et d'avoir cette ambition mondiale depuis le premier jour.
Alors, on l'a compris, une ambition mondiale et puis des entreprises positionnées sur des marchés porteurs comme Miracle qui crée des places de marché sur Internet. Des entreprises qui bénéficient d'un environnement français porteur selon Philippe Corot, le fondateur de Miracle.
Il y a, c'est sûr, un environnement favorable qui a été créé par le gouvernement avec des initiatives comme la French Tech, avec des initiatives comme Choose France. C'est-à-dire tout cet environnement favorable qui est créé par le gouvernement se retrouve concrètement par des investissements étrangers ou européens qui sont faits dans des entreprises françaises et donc créent des emplois dans les équipes achats, marketing, vente, etc.
Le patron de Miracle à votre micro. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
C'est un procès rarissime pour un ministre en exercice. Alain Griset, en charge des petites et moyennes entreprises, est convoqué devant le tribunal correctionnel aujourd'hui. Le motif, une omission substantielle dans sa déclaration de patrimoine.
Un autre procès pourrait bien embarrasser l'exécutif, celui d'Alexandre Benalla. Ce mercredi, l'audience est consacrée aux violences commises le 1er mai 2018.
Trois interpellations musclées, l'une au Jardin des Plantes, l'autre place de la Contre Escarpe à Paris. C'est ce que reproche la justice à l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. Marion Dubreuil, pour la première fois, Alexandre Benalla sera face à ses victimes.
Oui, durant l'instruction, les juges n'ont pas demandé de confrontation. Ils ont sans doute estimé que ce n'était pas nécessaire grâce aux vidéos, en dépit de ces éléments matériels. Les versions s'opposent. Dès le premier jour de l'audience, d'ailleurs, Alexandre Benalla a expliqué qu'il avait agi pour la société après avoir interpellé des délinquants. Cette déclaration a fait tiquer Chloé et Georgios. C'est le fameux couple de la Contrescarpe. S'ils ont tous deux été condamnés à 500 euros d'amende pour jet de projectiles sur les policiers le 1er mai, ils sont aujourd'hui sur les bancs des partis civils, tout comme Khalifa, qui avait fait l'objet d'une interpellation musclée par Alexandre Benalla et Vincent Crass au Jardin des Plantes. Sans la personnalité d'Alexandre Benalla et son rôle de conseiller à l'Élysée, c'est une affaire assez banale, estime un avocat de parti civil, qu'on pouvait à l'origine qualifier de violence policière.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Des coulées noires et oranges dévalent lentement l'île de La Palma aux Canaries. La lave du volcan s'approche lentement de la mer et c'est très inquiétant, puisque cette arrivée dans l'eau pourrait générer des gaz toxiques.
En attendant, cette avalanche de feu engloutit tout sur son passage. Routes, arbres, maisons, plus de 6000 personnes ont été évacuées, comme Karel, un retraité hollandais installé sur l'île.
On est rentré lundi soir et mardi matin, on a vu que notre maison était perdue, comme plein d'autres, et la situation est vraiment proche d'une catastrophe. Il y a un petit village, disons un kilomètre et demi en dessous de nous. Ça va être perdu totalement. L'église, la salle des fêtes, l'école, le petit supermarché, la pharmacie, blablabla. Il y a plus en plus de monde qui ont été évacués. Et Nous, personnellement, on a de la chance qu'on a trouvé pour quelques nuits un appartement. Eh bien, on va pas voir qu'est-ce qu'on va faire dans la future. Il y a plein de choses qui tournent dans nos têtes.
Témoignage recueilli par notre correspondant Henri de Laguérie pour Europe 1.
Cette ère va peut-être et sûrement même vous rappeler votre jeunesse. Les Fugees, groupe mythique des années 90, ils annoncent un concert événement à l'Arena de la Défense le 4 décembre prochain. C'est l'une des dates d'une mini tournée internationale. Attention, il n'y a que 12 concerts. Omblin, quelque chose me dit que ça peut vous intéresser en tout cas.
Ça m'intéresse énormément, le concert des Fugees. On les attendait depuis très très longtemps.
Sauf que c'est un jeudi soir et que le lendemain, on a une petite matinale.
C'est pas grave. C'est ça, c'est le problème.
De Roman Hockey. Merci beaucoup Roman.
Et on va passer au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec Martin Lange et la Ligue 1 est déjà de retour, Martin.
Oui, 7e journée de championnat ce soir. Hein, tous les clubs sont sur le pont et ils vont jouer 3 fois cette semaine. Un rythme intenable selon l'entraîneur de Lyon, Peter Bosz, qui craint les blessures.
2 jours pour préparer pour 3. Après 3, on a 2 jours pour préparer. Ça, c'est pas possible. Bien sûr, on peut dire, ah, les joueurs, mais non. On a besoin de 3 jours entre les matchs. Et bien sûr, 1 fois, 2 fois, mais pas 5 fois. J'ai peur pour des blessures, il faut le dire.
Lyon qui reçoit 3 ce soir à 21h.
Dans les autres affiches de la soirée,
le PSG se déplace chez la Lanterne Rouge, Metz à 21h également. Les Parisiens devront faire sans Lionel Messi, touché au genou. Du côté de Marseille, c'est Dimitri Payet qui manque à l'appel. L'OM, dauphin de Paris, hein, se rend à Angers, toujours à 21h. À noter enfin Monaco qui attend sa première victoire à domicile et qui reçoit Saint-Etienne, coup d'envoi à 19h.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Les Bleus, eux, ont souffert mais ramènent les 3 points de leur déplacement en Slovénie. Victoire arrachée dans le temps additionnel, 3-2. Les joueuses de Corinne Diacre restent leaders de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2023. En cyclisme, on connaît la sélection qui entoura Julien Alaphilippe au championnat du monde dimanche en Belgique. Le Français va tenter de conserver son maillot arc-en-ciel et il sera bien accompagné avec notamment Arnaud Démare et Benoît Cosnefroy. Paris 2024 recrute 45 000 bénévoles exactement qui pourront déposer leur candidature dès février 2023. Alors quels sont les profils recherchés? La réponse de Michael Aloisio du comité d'organisation.
Il y a une contrainte, avoir 18 ans au 1er janvier 2024. Il n'y a pas de plafond d'âge, donc c'est ouvert vraiment à toute la population. On a autant des étudiants qui veulent s'embarquer à nos côtés que des retraités ou alors des gens qui sont salariés et qui, plusieurs années à l'avance, nous disent qu'ils veulent poser leurs vacances pour vivre les Jeux.
Enfin, 36 ans passés, Cristiano Ronaldo continue d'affoler les compteurs. Il enfile les buts, 4 en 3 matchs depuis son retour à Manchester. Et les exploits... Le Portugais a été flashé à plus de 32 km/h dimanche contre West Ham, record du match.
Quand même. À pied, hein.
À pied, bien sûr, ouais, évidemment.
Il n'était pas en voiturette.
Il est en train de courir. Merci beaucoup, c'était le journal des sports, signé Martin Lange.
6h09 sur Europe 1, vous restez avec nous, surtout si vous vous chauffez au gaz ou à l'électricité. Vous l'avez remarqué, les factures ont fortement augmenté ces derniers mois et cela risque d'empirer. Conséquence de la flambée des prix de l'énergie sur les marchés, on en parle dans un instant avec l'économiste Philippe Chalmin. À tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bienvenue si vous arrivez juste, il est 6h12 sur Europe 1 et on s'intéresse maintenant à un sujet qui nous concerne tous et qui suscite beaucoup d'inquiétude, de la flambée des prix de l'énergie. On en parle, Julien, avec notre invité, l'économiste Philippe Chalmin. Il est professeur à l'Université Paris-Dauphine.
Bonjour Philippe Chalmin.
Bonjour.
Quelques chiffres avant de commencer pour que l'on prenne bien la mesure de cette flambée. Plus 300% depuis le début de l'année, ça c'est pour les cours de gaz à la bourse, c'est du jamais vu. Plus 100% sur la même période pour l'électricité sur le marché à terme. Comment expliquez-vous cette envolée des prix de l'énergie?
Il faut d'abord un peu la relativiser dans la mesure où nous partons par rapport au prix de 2020 de niveaux relativement bas. Mais ce qui est clair, c'est que nous vivons en particulier sur le gaz naturel en Europe des tensions qui sont quand même relativement nouvelles, qui sont liés pour l'essentiel au sursaut de la consommation et puis à la diminution de la production de gaz naturel en Europe, ainsi probablement qu'aux humeurs de nos fournisseurs russes qui n'ont pas apprécié les lenteurs que l'Europe a mis dans la fabrication et la mise à disposition du gazoduc Nord Stream 2. Et donc, les Russes ont quelque peu réduit leur production. Tout ceci a joué, sachant que le marché du gaz naturel est un marché qui se mondialise, que nous avons des tensions en Asie, que l'Europe et l'Asie se battent sur des cargaisons de gaz naturel liquéfié. Tout ceci mis bout à bout, dans un climat de tension aussi sur d'autres marchés, explique la hausse des prix, un, du gaz naturel, et puis, bien entendu, de l'électricité, puisque aujourd'hui, le prix de l'électricité dépend, au fond, du prix du dernier mégawatt produit, qui, lui, provient de centrales à gaz.
Pour revenir un instant sur l'augmentation du gaz, vous dites qu'il y a un effet rattrapage par rapport aux tarifs pratiqués l'année dernière. Enfin, les tarifs réglementés ont bondi de 40% en moyenne depuis le début de l'année. On est au-delà du rattrapage, là, vous ne trouvez pas ?
Alors, effectivement, lorsque les prix baissent, il faut savoir que les prix s'étaient littéralement effondrés au printemps 2020. Ça ne s'est pas reflété, bien entendu, dans les prix des tarifs. Aujourd'hui, la hausse, elle n'est au fond que de 40%, alors que, pour vous donner un exemple, par rapport au point le plus bas des marchés qui avait dû être atteint aux alentours de mai-juin 2020, sur le prix spot du gaz naturel, les prix ont plus que décuplé. Donc, quelque part, nous avons, avec la creux en France, une structure qui lisse les tendances, mais qui ne peut pas, bien entendu, gommer des hausses de prix qui aujourd'hui sont réelles.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut encore s'attendre à de fortes hausses dans les mois à venir, sachant que la saison froide n'est pas encore arrivée, on n'a pas encore rallumé les chaudières ?
Disons qu'on peut imaginer quand même que les prix actuels sur le marché spot ne devraient pas si considérablement augmenter que cela, sauf, bien entendu, hiver extrêmement rigoureux. C'est vrai que nous attaquons l'hiver en Europe avec des stocks de gaz qui sont inférieurs à ce que l'on avait d'habitude, tout simplement aussi parce que nombre d'opérateurs ont tardé à reconstituer leurs stocks en espérant que les prix baisseraient. Et donc, comme ça ne s'est pas produit, aujourd'hui, nous arrivons à la fin de l'été, et un peu plus comme des cigales que comme des fourmis. Et là-dessus, c'est vrai que si nous avions un hiver rigoureux, nous pourrions avoir, sur le marché spot, bien entendu, des tensions, même si les prix actuels sont tellement élevés que je les imagine mal monter tellement plus haut. Il faut savoir que en équivalent baril de pétrole, parce qu'on raisonne plus facilement en équivalent baril de pétrole, nous sommes aujourd'hui à des prix du gaz qui sont l'équivalent de $150 le baril.
Et justement, concernant le pétrole, concernant le prix des carburants, est-ce que là aussi, il faut s'attendre à ce qu'ils augmentent encore ? Ils ont déjà, je précise, progressé de 14% depuis janvier pour le litre de gazole et de sans-plomb.
Effectivement, si au mois de mai 2020, vous avez pu faire votre plein, vous faisiez votre plein à 1,25€. Aujourd'hui, vous le faites à 1,58€ pour du sans plomb 95. Mais 1,58€, c'est ce que l'on avait payé en 2018 ou 2019. Autant nous vivons aujourd'hui une période un peu exceptionnelle sur le marché du gaz naturel, autant j'aurais presque tendance à dire que les prix du pétrole sont presque raisonnables. On est entre 70 et $75 le baril. Mon pronostic, mais il n'engage bien entendu que moi, et qu'au vu des surcapacités existant quand même dans le monde, on pourrait voir d'ici la fin de l'année le baril de pétrole perdre quelques dollars, et donc le litre de essence sans plomb perdre quelques centimes.
Merci beaucoup Philippe Chalmin de nous avoir éclairé sur cette flambée des prix de l'énergie. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et d'économie à l'Université Paris-Dauphine et directeur du rapport Cyclope. C'est la bible de l'analyse des marchés mondiaux des matières premières. À bientôt sur Europe 1.
Merci.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon début de matinée sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi avec Alban Le Prince.
Le carnet de chèques est posé sur la table. Le budget 2022 présenté ce matin en Conseil des ministres. Si l'exécutif compte entériner la fin du quoi qu'il en coûte, l'opposition estime qu'Emmanuel Macron vide les caisses de l'État avant la présidentielle. Près de la moitié des collégiens des zones prioritaires avouent s'ennuyer en cours. Résultat d'une enquête de l'association de la Fondation étudiante pour la ville réalisée à l'occasion de la journée du refus de l'échec scolaire. Messi, blessé au genou gauche, ne jouera pas ce soir. Septième journée de Ligue 1 ce mercredi. Le PSG se déplace à Metz. Début de la rencontre à 21h. À suivre aussi Monaco-Saint-Etienne ou encore Angers-Marseille.
On termine avec votre partition, Omblin. Depuis quelques jours, une nouvelle anthologie du chanteur Christophe est disponible. C'est un coup de projecteur sur la dernière partie de son parcours au début des années 2000. Et bien ce matin, avec vous, Omblin, on remonte encore un peu plus le temps. Retour sur la formidable collaboration entre Christophe et un certain Jean-Michel Jarre.
Une amitié indéfectible, Julien, qui naît au début des années 70. Christophe a connu la gloire avec la chanson Aline. Mais maintenant, il doit faire face à une traversée du désert.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait.
Dans le creux de la vague, Christophe quitte la maison de disques Barclay pour travailler avec le producteur Francis Dreyfus.
L'info de jazz, connu pour avoir édité les disques de David Bowie ou des Pink Floyd, il organise la rencontre entre Christophe et Jean-Michel Jarre qui à l'époque ne vit pas de musique mais de ses textes écrits pour d'autres.
Et entre les deux artistes, c'est un coup de foudre amical, musical mais pas uniquement.
Oui, ils partagent la même passion pour la magie. Ils décident de travailler ensemble sur le spectacle de Dominique Webb, le grand illusionniste qui sur scène fait voler un piano, ça vous parle ?
Bandit, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre.
En 1973, les deux amis s'installent dans les mythiques studios Ferber à Paris.
On assiste à cette époque à une transformation physique du chanteur. Christophe adopte une attitude moins lisse, plus mystérieuse. Il se laisse pousser les cheveux, chausse des lunettes fumées. Jean-Michel Jarre, lui, écrit l'album Les Paradis Perdus. Et Christophe renoue avec le succès.
On ne change pas une équipe qui gagne. Le tandem rempile un an plus tard.
Pour la chanson d'amour, tout en retenue, les mots bleus, Jean-Michel Jarre ne tient pas beaucoup à donner des explications sur son texte. Il dévoile cependant être inspiré de la personnalité du chanteur tel qu'il le côtoie dans le privé. Le Christophe cinéphile, amateur de jukebox pour la composition. Écoutez bien, vous entendez le synthétiseur que Jean-Michel Jarre utilisera plus tard sur son disque Oxygène.
Il est 6h au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance. Et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre.
Les mots bleus de Christophe et les mots de Jean-Michel Jarre. La musique est de Christophe. Il nous a quittés il y a un an et demi maintenant et vous retrouvez dans les bacs un coffret plutôt imposant qui retrace en vinyle le parcours de Christophe des années 2000 jusqu'à sa disparition. Coffret qui s'appelle Ses Petits Luxes.
Merci beaucoup Omblin. Vous restez avec nous. Dimitri Pavlenko va nous rejoindre dans un instant pour la suite de votre matinale sur votre radio bleue Europe 1 évidemment. À tout de suite.